Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Je suis très heureuse ce soir de recevoir Thomas Misraki. Vous êtes grand reporter pour TF1 et vous publiez Le Dernier Soir, c'est publié chez Grasset, un livre bouleversant dans lequel vous racontez les dernières heures de votre amie. Elle a 77 ans, vous l'appelez Sylvie. Vous l'avez accompagnée jusqu'à son dernier souffle lorsque, après elle vous avoir dit merci à vous, elle s'est éteinte. Cette Sylvie, c'est Jacqueline Jenkel. C'est une femme libre, une militante qui s'est toujours battue pour que les gens puissent choisir le moment de leur mort et choisir de mourir dignement. Vous l'aviez rencontrée dans le cadre de votre travail. Un jour donc, elle vous demande de l'accompagner jusqu'à la fin. Vous dites que cette présence était à la fois un privilège immense et un terrible fardeau. Vous dites oui tout de suite ?
Je dis oui tout de suite. Je dois hésiter quelques secondes. Tout se passe très rapidement. Quand on vous pose une question comme celle-ci, évidemment on en avait parlé avant, évidemment je savais que ce moment allait arriver. Mais ce sont les circonstances du moment qui sont la surprise pour moi à ce moment-là. Elle avait prévu de faire cela en Suisse. Et au dernier moment, elle renonce. Elle a envie de faire cela chez elle, en France, à Paris.
Avec vous ?
Avec moi. Parce qu'elle veut mourir chez elle. Elle ne veut pas mourir dans une institution, un hôpital, une association.
Elle avait tout prévu. Absolument tout. Les moindres détails de cette soirée, ce dernier soir que vous allez passer avec elle, vous racontez. Comment on se prépare à, au fond, on ne peut pas imaginer avoir à vivre ce genre de situation un jour dans sa vie. Vous racontez, c'était comme pour un braquage, il fallait cacher les échanges de mails, s'assurer que personne ne me voit à ce moment-là.
Il fallait penser à tout et surtout il a fallu penser à tout au dernier moment, c'est ça le problème. Moi je rentrais de reportage, je rentrais d'Ukraine, je l'ai appelée pour avoir des nouvelles. Et elle m'a dit, c'est ce soir, est-ce que tu viens ? Donc je me suis retrouvé à 19h chez elle ce soir, elle était vivante. Elle m'a reçu ce soir-là comme on reçoit un ami, comme on se voyait régulièrement, avec toute l'empathie qu'elle pouvait avoir. On a discuté de tout et de rien. Et en même temps, juste au-dessus de nos têtes, il y avait cette épée de Damoclès, il y avait sa mort qui arrivait. Et donc on en a parlé dans un premier temps assez rapidement. Elle m'a dit, voilà, ça va se passer comme ça, ne t'inquiète pas. Puis on est parti sur autre chose, on a discuté des uns et des autres. Et puis après, c'est revenu.
Elle vous parle de sa vie, elle vous fait des confidences, elle vous parle de ses avortements, ce qu'elle n'avait jamais raconté à personne d'autre. Et puis, elle vous raconte pourquoi, au fond, elle veut partir. Et elle vous dit, c'est très beau, ces passages-là dans votre livre sont bouleversants. Elle dit, je ne construis plus rien, je suis plus rien. Une vieille dame, une statue de sable qui s'érode chaque jour un peu plus, dont les formes disparaissent, dont les mémoires disparaissent. Une femme frêle, fragile, qui tremble quand elle oublie de prendre ses pilules, etc. Et elle termine avec cette phrase qui est très belle. Je n'ai pas peur de partir, j'ai peur de rester dans tout cela.
Sans tout cela, sans tout cela. C'est ce qu'elle dit, parce que c'était une amoureuse de la vie. C'était quelqu'un qui avait une énergie, une force, un charisme, une beauté extraordinaire. Et tout cela lui échappait. C'est elle ça. Savait que c'était en train de lui échapper. Et elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas concevoir sa vie sans cela. Et donc ce choix, il était clair.
Elle dit, j'ai peur d'oublier le sexe, la douceur du printemps, la colère, l'amour, le plaisir et la haine. C'est tout ça qu'elle veut.
Oui, elle était souvent en colère, souvent en colère contre tous et toutes. Et ça la maintenait. Et cette colère, elle disparaissait. Elle devenait anesthésiée, en quelque sorte, par le quotidien.
Et dans votre livre, il y a une alternance de moments très profonds, très beaux et de moments très froids. Très froids, très techniques sur l'organisation de ces derniers instants. Il y a une histoire de foulard. Elle ne veut pas qu'on la voie. Alors qu'elle est en train de choisir sa mort, elle ne veut pas qu'on voit le visage de la mort. En même temps, elle ne sait pas si elle doit le mettre ou pas le mettre sur son visage, elle-même. C'est assez touchant, cette histoire de foulard.
Très coquette. Très coquette. Elle ne voulait pas que la personne qui la découvre après voit son visage avec la bouche ouverte ou les yeux ouverts. Elle trouvait que c'était choquant pour la personne, dégradant pour elle. Et c'était absolument essentiel. Donc elle voulait mettre ce visage, ce foulard sur son visage. Et puis on s'est rendu compte au moment où on allait le faire que ça n'avait pas de sens, que c'était absurde. Et donc finalement, elle ne l'a pas fait.
Et puis elle prend ce médicament, cette pilule. Tout ça est très scénarisé. Et vous dites, j'ai envie de lui poser 1000 questions. Et si ça se passe mal? Et si tu vomis? À quel moment j'appelle les secours? À quel moment j'appelle les secours? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous dites, je ne peux pas lui laisser faire ça. Est-ce que vous vous posez cette question?
Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Imaginez-vous en haut d'un plongeoir, vous sautez, et entre le moment où vous sautez et le moment où vous arrivez dans l'eau, il y a 1000 choses qui vous traversent la tête. Mais c'est fini, vous avez sauté. C'est exactement dans cet état d'esprit que je suis à ce moment-là. Je suis entre le plongeoir et l'eau. J'ai fait mon choix, je ne peux plus reculer. Elle a fait son choix. Ce qui va se passer, elle va mourir devant mes yeux. Et la seule chose que je puisse espérer, c'est qu'il y ait de l'eau dans la piscine et qu'il ne se passe rien de mal. Voilà ce qui se passe. Mmh.
Vous racontez qu'elle avait écrit plusieurs lettres, une pour la police, une pour Mathilde, sa voisine, une autre pour ses fils. Tout était réfléchi, préparé. Il fallait juste que je sois là sans rien faire. Un ami, un compagnon de route, un témoin en ombre, un prêtre et un dernier fidèle. Comment est-ce que vous analysez au fond le rôle que vous avez eu ce soir-là? On peut se dire pourquoi est-ce qu'elle n'a pas choisi un de ses enfants?
Parce qu'il lui fallait quelqu'un de proche, mais de pas suffisamment proche pour l'empêcher, pas pour l'empêcher physiquement, mais pour qu'elle doute de sa démarche, qu'elle y renonce. Elle avait déjà renoncé à plusieurs reprises parce qu'il y a eu la Covid, parce que un petit-fils à elle était né quelques mois plus tard. Et je pense qu'elle était décidée à aller jusqu'au bout. J'étais la meilleure personne, la personne la mieux placée pour l'aider ce soir-là, parce qu'on était proches, parce qu'elle me faisait confiance, parce qu'elle avait probablement pour moi une forme d'amour et qu'elle savait que j'étais à 100% derrière elle.
Vous considérez que vous l'avez aidée?
Non, je considère que je l'ai accompagnée. Est-ce que l'accompagnement est une forme d'aide?
Ouais.
Peut-être que certains considéreront que c'est le cas. Moi, je considère que j'ai été là pour elle, que j'ai tenu une promesse.
Vous avez pris un risque. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans les préparations, il y a aussi cette idée que vous voulez tout effacer, les mails, les messages, etc. Parce que, y compris en écrivant ce livre. D'ailleurs, je pense que vous avez retravaillé très précisément ce livre pour ne pas être incriminé, vous, directement.
Certains passages ont été retirés, effectivement, du livre.
Vous l'assumez, ça, de
prendre? Je l'assume, bien sûr.
Elle le savait aussi?
On l'assume avec mon éditeur, avec Grasset, avec Christophe Bataille, qui a supervisé tout ce livre. On a assumé de prendre ce risque-là.
Parce que vous dites, dans la France de ce soir-là, j'étais un criminel en devenir. Dans la France d'aujourd'hui encore, toujours. Malgré les annonces du chef de l'État, qu'il dit qu'il veut légiférer sur l'aide à mourir, ce texte n'aura rien changé pour celle que vous appelez Sylvie.
Rien du tout. Dans la façon dont elle a décidé de faire les choses, ce texte n'aurait rien changé pour elle, néanmoins. Moi, je pense qu'elle aurait été très heureuse.
Parce que
ce texte de loi que propose le président de la République, qui va être débattu par les parlementaires à la fin du mois de mai, c'est, à mon avis, l'un des combats de ces dernières années, des dernières années de sa vie. Mmh. Et elle aurait été très heureuse de voir que les choses avançaient enfin.
Il a lu le président, ce
livre ? Il a lu le président, oui, il a lu le président. Il m'a envoyé un petit mot. J'ai reçu ça vendredi soir.
D'accord. Il vous disait quoi ?
Il me dit, alors je ne vais pas tout vous dire évidemment, mais je peux vous dire une phrase en tout cas. Merci pour votre humanité, bravo pour ce combat.
Ça en dit long sur ce qu'il pense de ce que vous avez fait, de la façon dont il faut légiférer et avancer sur ce sujet-là. Quand vous repensez à cette soirée, déjà vous avez choisi de l'écrire, j'imagine que ça a pris du temps pour choisir de l'écrire. Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste de beau?
Il me reste elle. Il me reste cette soirée qu'on a passée ensemble, qui était la dernière. Il me reste ces mots, merci Thomas. Il me reste le sentiment d'avoir tenu cette promesse qui me terrorisait. Et peut-être d'avoir, c'est ce que m'a dit l'un des éditeurs, pris le flambeau en quelque part. Moi, je ne veux pas être porte-parole de quoi que ce soit, mais dans cette lutte à laquelle je crois, moi aussi, j'ai un rôle à jouer.
Voilà. Est-ce que vous avez suivi des critiques depuis la publication de ce livre? Est-ce que ses enfants ont compris votre présence ce soir-là à ses côtés?
Alors, les critiques, oui. On a dit que je participais à un esprit d'eugénisme dans la société française. Je vous invite à regarder la définition d'eugénisme, ce n'est pas exactement ça. Ses enfants, elle a trois fils. Oui. Un avec lequel je suis ami, qui a lu le livre, qui a beaucoup aimé. Le second que je connais, qui a lu le livre et je n'ai pas eu de réponse. Le troisième, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il a lu le livre.
Mm-hmm. Et les critiques.
Et son frère, le frère de Jacqueline, donc Jacqueline Junkel. Oui. Je l'ai eu au téléphone aussi et il était très touché par le livre.
C'est un sujet auquel vous croyez, vous, personnellement?
Oui.
Vous aussi, vous voulez choisir quand et comment vous quitterez la vie, vous choisirez votre départ.
C'est ce qui nous réunissait. Avec Jacqueline, on était d'accord sur le principe et sur l'âge, 75 ans.
Et pourquoi 75 ans?
Parce que je serai suffisamment, j'espère, apte intellectuellement, physiquement, à prendre cette décision sans avoir de peur déraisonnable et sans avoir la possibilité. J'espère que j'aurai encore ma capacité d'analyse, de compréhension, que j'aurai mes convictions. Quand on commence à avoir peur, on commence à renoncer.
Et
si j'arrive au moment où j'ai
peur,
je renoncerai. Je pense que oui, on arrive à un moment où la mort terrifie. Moi, la mort me terrifie. Moi, j'ai une vie formidable. Je n'ai pas du tout envie de mourir.
Ouais. Vous êtes papa?
Je suis papa d'une petite fille de 7 ans.
Ouais. Ça va être compliqué de lui expliquer quand elle va être en âge de comprendre que même si à 75 ans, vous allez bien, il faudra lui dire au revoir.
Tout s'explique. Après, est-ce qu'elle acceptera cette autre chose? Mais il faudra qu'elle accepte que je suis son père et un homme et qu'en la matière, j'ai des convictions.
Elle vous a dit merci.
Merci Thomas.
Merci Thomas. Vous lui avez dit quoi?
Rien. Je ne savais pas quoi dire. J'avais envie de lui dire plein de choses. J'avais envie de la prendre dans mes bras. Ouais. J'avais envie de la serrer. Mais je ne pouvais pas.
Merci beaucoup pour ce témoignage et ce livre magnifique qui ne laisse pas indemne. C'est-à-dire qu'on se pose tous en lisant votre livre la question de se dire, est-ce que j'en aurais été capable? Qu'est-ce que j'aurais dit? Qu'est-ce que j'aurais fait? En tout cas, ça s'appelle Le Dernier Soir. C'est publié chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu nous en parler avec autant de sincérité ce soir. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur la charge de Vladimir Poutine à l'encontre de la France et d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.